Cette édition du podcast Laurence écoute parler est rendue possible grâce à vous, nos auditeurs et à nos commanditaires chez Option Notaire et chez Farley Avocat. Sans eux, Laurent serait tout seul à s'écouter parler. Sans plus tarder, vas-y Laurent, on t'écoute.
Je suis équipé, j'ai des masques, j'ai le fameux masque 195 et il faut faire attention.
En direct d'une cuisine non réfrigérée de Rosemont-Montréal, ce qui arrive, là, c'est que moi, les gens à la maison, là, vous avez, c'est un héros à qui vous parlez. Parce que moi, quand je vous parle, là, j'arrête l'air climatisé, j'arrête les ventilateurs pour que la qualité du son soit optimale. Mais là, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à peu près en plein milieu du podcast, là? Je vais pogner coup de chaleur, sunburn, comme vous dites les Américains, pour la clientèle américaine qui écoute. Là, je risque de m'évanouir. En plein milieu du podcast, là, je vais être obligé de faire un petit montage sur le morceau, ben, le moment où je me suis évanoui. Après ça, revenir. Hey, c'est du trouble, ça. Alors, pour éphéméride, bonne fête à Victoria Giria Dagrin, 12 ans aujourd'hui. Bonne fête à Émilie Proulx, 40 ans aujourd'hui. Victoria est tellement mature, elle a l'air de 14 ans, puis Émilie est tellement hot encore, elle a l'air de 29 ans. Donc, on a une qui a l'air un peu plus vieille, puis une qui a l'air beaucoup plus jeune. Alors, bravo aux deux fêtés. Attendez-vous pas à des cadeaux de fête. Vous venez d'être mentionné sur le podcast. C'est ça, votre cadeau. J'ai toute une histoire à vous raconter. Hier, je me lève, puis là, dans mon idée, j'allais rien faire de ma journée, OK? Mais moi, j'ai beaucoup d'amis-filles, OK? Parce que j'adore l'amitié des filles. C'est une fille, c'est tendre, c'est doux, puis parfois, c'est affectueux. Fait que moi, je préfère les filles. Puis comme je suis roux, puis que j'arrive jamais à sortir avec, ben, je les garde comme meilleur ami, tu sais. Puis là, des fois, je me dis, ils vont peut-être prendre un verre de rosé de trop, puis se pitcher sur moi. Fait que là, c'est toujours l'espoir que j'ai. Fait hier, j'étais en train de dormir et là, j'ai mon ami, je vais taire son nom, là, des raisons de confidentialité, elle m'écrit et elle me dit « Tout va mal, ça va vraiment mal, tout va mal, mais ça va bien financièrement, je t'amène au spa. » Et là, je dis « Quoi, tu m'amènes au spa? » Ben là, vous savez comment que c'est, finalement, j'ai quand même payé mes affaires, mais je l'ai accompagné au spa pour y remettre un sourire d'en face. Mais là, hey, d'un, les gars, tombez pas dans ce piège-là. Si vous n'êtes pas obligé, allez jamais au spa. On était au Finlandais à Rosemère. Allez jamais là, mais c'est pour vrai, c'est du mange-argent, là. Premièrement, ça m'a coûté 158$ pour la journée. Je sais pas si vous le savez, là, 158$. J'aurais préféré laisser un rein sur la table. Fait que là, je suis là. Tu sais. Ah ouais, on y va. Un bain, un spa, une affaire thermique. Et là, on prend-tu un massage? 122$. Je dis, non, ça va. Je m'auto-suffis, point de vue massage, de ce temps-ci. Fait que là, premièrement, veux-tu un petit drink? Ah oui, un autre 12$. J'ai acheté une tuque parce que je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Ça me servira pas à rien de ce temps-ci. 5$. J'ai dîné. 22$. Ah ouais, un petit champagne. Non, ça va. Je vais boire de l'eau. Bouteille d'eau, 5$. Je te dis, eux autres, les tramassent de partout. Je pense que ça m'a coûté 244$ en tout. Première affaire que vous savez, j'avais oublié ma crème solaire. Puis, tu sais, je pensais que j'étais correct. Je suis brûlé à grandeur. Les gens m'appelaient l'écrevisse poilue là-bas. Je m'étais fait 2-3 amis. Puis c'est ça, le monde m'appelait l'écrevisse poilue. Fait que là, je suis rouge à grandeur. Je fais de l'insolation, puis je vous anime un podcast. Mais c'était quand même le fun parce que là-bas, c'est tous des petits couples genre, qui sont en début de passion. Fait que là, je regardais les gens. J'analysais les situations. Je voyais les gars qui étaient vraiment les yeux en amour, qui étaient tendres. Puis là, je me suis dit, c'est quand même beau l'amour, tu sais, quand tu as trouvé la bonne personne ou ce que tu crois à ce moment-là de ta vie être la bonne personne. Puis là, j'étais comme ému. Fait que voilà, c'était ma chronique « N'allez pas au spa, ça coûte beaucoup trop cher ». Après ça, je voulais vous dire, si vous n'avez pas écouté vendredi matin, Martine À moins que c'était jeudi, mais c'est pas grave. Martine Vallière-Bisson était au 91.9 en entrevue avec Anthony Marcotte. Et là, je vous le dis, là, à Québec, il y a une école qui donne des cours de radio. Non, je pense que c'est à Jonquière. Genre. Ils donnent des cours de radio. Là. Puis exemple, tu sais, tous les gens qui sont des experts là, en radio, comme Soleil d'Aigle ou Vincent Tremblay, ils sont tous allés pas mal en... Mais pas Vincent, je pense, mais ils sont tous allés à cette école-là. Okay? Mais je vous le dis, Martine Vallière-Bisson aurait pu enseigner à l'ATM Jonquière, les cours de radio, ou la cégep de Jonquière, la communication. Martine Vallière-Bisson est allée d'une entrevue et toutes les bonnes réponses, tu sais, oui, elle parlait de son cancer, mais jamais tombée dans la facilité. Elle est arrivée avec les bonnes réponses. Elle a même parlé des autres. Elle dit, puis ça, c'est j'en avais parlé aussi avec une de mes amies qui a eu deux cancers. Une femme magnifique, je la salue. Puis elle me racontait que, tu sais, oui, comme exemple Martine ou elle, il y avait un entourage, il y avait des parents ou tout, mais il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui, tu sais, pour X raisons, tu viens d'un autre pays, tu es seul, boum, tu pognes le cancer, tu te ramasses, il y avait des gens qui se faisaient opérer, partant en autobus, parce qu'il n'y avait pas d'argent, des taxis. C'est vraiment pas évident. Puis Martine, elle a mentionné ça. Elle dit, moi, j'ai un entourage, j'ai le monde de la boxe qui s'est mobilisé, mais elle dit, c'est pas tout le monde que ça. Là, je disais, wow, Martine, même dans la maladie, même quand ce serait son temps à elle, tu sais, de se plaindre et de se laisser gâter, son réflexe a été rapidement de penser aux autres. Quelle femme incroyable! Si Martine, un jour, croit encore à l'amour et croit encore aux hommes. J'ai marié, c'est sûr. Là. Genre, je fais ni une ni deux. J'arrive avec un bouquet, une bague qui équivaut 3 semaines de salaire et je marie Martine Vallière-Bisson dès que j'apprends qu'elle revient sur le marché des joueurs autonomes sans compensation pour faire un détour avec le hockey. C'était ton introduction préférée et... Ben, pourquoi pas? Tant qu'à être là, on va y aller avec la publicité. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai perdu mon introduction. Je sais pas, j'ai fait des fois, je fais des mises à jour ou je fais du ménage dans mon téléphone parce que j'ai plus de place pour télécharger mes émissions. Puis là, je me ramasse, boum, j'ai effacé mon intro. T'sais. Dans 6 jours, 13 heures, 6 heures. Mon Dieu. Je vais mettre un petite ligne pour le montage. Dans 6 jours, 13 heures, 41 minutes et 13 secondes, le défi du peuple, fightnight.co. Dommage que des gens qui sont chroniqueurs au 91.9 n'avaient rien à parler cette semaine. Hey, si tu manques de sujet, écris-moi, mais je peux écrire ta chronique, je peux t'aider. T'es pas obligé de cochonner un beau projet. Je m'adresse à... Ben, ils se reconnaissent, ils m'écoutent, là, mais... Tais-toi, le mardi au 91.9, je vais t'aider genre, à faire ta chronique, mais viens pas cochonner un projet pour les bonnes œuvres. Fightnight.co, on va avoir un combat entre, vous l'avez su, Jean-Pascal et Faxon Perrine. Un combat de démonstration. Pascal passera pas Perrine entre deux câbles. C'est un plus. Pour les gens qui ont acheté leur billet, c'est Sébastien Forgue et Benjamin Théberge qui étaient de bonne humeur un matin. Ils se sont dit, on va donner un bonus aux gens qui nous suivent depuis le début. On va être, si on est de bonne humeur, tout va bien. On va demander à Pascal. Ils se sont dit, ben, on a le contact, on l'a vu. On connaît la personne qui s'occupe de ces médias. On va s'essayer. Ils sont descendus à Blainville. Ils ont payé une pizza à Pascal. Ils ont été fins avec. Pascal a senti, comme moi j'ai senti, que ces deux bonnes personnes, la première fois que je les ai rencontrées, des gens avec qui tu as le goût de t'associer. Pascal, il a dit, il est beau votre projet. Ça va à une maison. L'argent va à une maison pour femmes battues. Le moitié-moitié va finir dans les poches à Martine Vallière-Bisson. Vous avez le meilleur animateur en Laurent Poulain. J'embarque. Puis il a décidé d'embarquer pour la cause. pas besoin d'aller dire en onde qu'il a besoin d'argent. Il sera même pas payé. Il se relaxer un peu. Pascal, ça, c'est triste dans la vie. Hein? Tu sais, Pascal décide de s'impliquer pour la cause. Il y a des gens qui le cochonnent. Tu sais. Après ça, c'est comme si, mettons, je vais, moi, sur la rue Masson, je donne 4 piastres à un itinérante, puis le monde se met à crier « Poulain, fais ça pour les reçus d'impôts! » Mais en même temps, tu peux, j'ai même pas de reçus d'impôts. Fait, c'est, on est comme rendu dans un Québec où il n'y a plus moyen d'aider puis faire plaisir, mais le monde va te manger tout rond, peu importe ce que tu fais. Je vous haïs tous. Il va y avoir aussi Jean-Pascal contre Faxon Perrine. On va avoir un combat extraordinaire entre Éric Lapointe et Siomak Ramati, l'homme que j'ai entraîné moi-même de mes mains. Quand j'ai rencontré Sia, il était fort comme un cheval, mais il ne savait pas s'entraîner. J'ai dit « Mets ta main de même. Mets ta main de même. C'est de même qu'on fait ça un deadlift. » J'y ai expliqué de A à Z la science de l'entraînement, parce que moi, j'étais un scientifique de l'entraînement, mais qui ne s'entraîne pas. J'étais un peu comme un Jacques Demers, tu sais. Je ne sais pas patiner, mais je peux t'expliquer exactement comment patiner. On va aussi avoir... j'ai plein d'autres combats. Je vous le dis, eux autres, ils mettent le paquet. C'est toujours le party. Avant, quand on avait le droit, il y avait des feux d'artifice. Il y a Sylvain Pelletier d'Infobox. Il y a moi, en partant. Ça va être gros à Trois-Rivières. Fightnight.co, achetez-vous des billets. Ça coûte, mettons, 50$. Juste en feu d'artifice puis en pyrotechnie, tu vas avoir ton 50$. Fait que présente-toi, viens me saluer. Je vais prendre des photos avec exactement chaque personne dans le public. C'est-à-dire, si on est 700, je prends 700 selfies. Fightnight.co. Ici Claude Poirier. Nouvelle chronique, Claude Poirier. La semaine passée, je vous ai parlé de Frank Choufi. Là, je vais vous parler d'un boxeur de la région de New York. Et j'adore les podcasts de True Crime québécois. Donc, j'essaye. Moi, j'ai dit, j'aime ça, les True Crime. Puis, ce que j'aime, je veux le faire. Fait que là, je lance un podcast de True Crime québécois. La chronique Claude Poirier, toujours en lien avec la boxe. Tant que je vais avoir des histoires de crimes avec la boxe, je vais continuer. Puis, faites-vous-en pas, il y en a... une puis un autre. Cette semaine, je vais vous parler de James the Harlem Hammer Butler Jr. Ou, si vous préférez, James le Marteau New-Yorkais Jr. C'est toute une histoire, ça. Vous allez capoter ben raide. C'est invraisemblable. En gros... Ce qui m'a fait penser à ça, c'est la semaine passée quand j'ai appris que Max Kellerman gagnait 5 millions par année et qu'il avait été congédié de ESPN, si ma mémoire est bonne, ou ils ne l'ont pas renouvelé. Là, ça m'a rappelé cette vieille histoire-là, vous allez voir. On est... premièrement, James Butler Jr., il est né le 18 décembre 72 à Harlem, New York. C'est un... light heavyweight et un ancien champion de la USBA chez les 168 livres. Sa carrière, 20 victoires, 5 défaites, 12 combats remportés par KO. Et c'est ça. Après 19 combats, il est 18-1. Sa seule défaite, il l'a subi contre Richard l'Alien, The Alien Grant. Alors qu'il est 18-1, il va perdre un combat de championnat contre Venotke, qui va le battre par décision unanime. Un Allemand qui frappe vraiment pas fort, mais qui n'a pas perdu beaucoup de rondes dans sa carrière. Et là, après avoir perdu contre Hotke en championnat du monde, on lui offre un combat revanche contre Richard et Alien Grant, qui est sa première défaite en début de carrière, à New York. Parce qu'on a besoin d'un gars de New York. Et là, tenez-vous bien. Là. C'est un événement bénéfice pour le 11 septembre. Le 11 septembre qui est arrivé, le 11 septembre 2001. On est le 23 novembre 2001. On est au Roseland Ballroom à Manhattan. Et dans la foule, il n'y a que des pompiers, des policiers, puis des ambulanciers. C'est un événement bénéfice organisé par Lou DiBiella où on leur fait un cadeau. Après un combat chaudement disputé, où Grant l'emporte par décision unanime, serré des juges. On ne peut pas parler de controverse, mais c'est serré. Notre ami James Butler va retirer ses gants. Il va traverser le ring dans ce qu'on pense vouloir donner un câlin à notre ami Richard Hallion Grant. Et il va, au lieu de lui échanger ses félicitations, il va lui échanger une violente droite à la mâchoire. Il va immédiatement, il casse la mâchoire de Richard Grant. Teddy Atlas, qui est au bord du ring, il crie « Arrêtez cet homme! » Puis il y a des shérifs qui marchent vers le ring aussi. Je crois qu'il est arrêté sur place ou dans les jours qui vont suivre. J'ai pris des notes, ça, vous allez rire, là, mais je vais vous sortir ça tantôt. Vous allez rire, au moins. Ben, c'est pas drôle, là, mais. C'est vraiment pas drôle, mais on va rire un peu, tu sais. Je voulais qu'on fasse. Et là, on pense que ce gars-là est suspendu à vie. On pense qu'il se battra plus jamais. Finalement, il va se battre. En 2004, au mois d'août 2004, il va se battre contre Omar Sheka, où il va perdre une split decision. C'est encore capable, James Butler, malgré sa suspension à vie qui n'est pas respectée contre Omar Sheka. Je crois que le combat a lieu en Allemagne. Et là, ça va vraiment pas bien. Il prend sa retraite, puis comme la plupart des boxeurs qui prennent leur retraite, ça va mal en joie le vert. Sa femme veut le laisser. Il ne peut plus approcher son enfant. Il panique bien raide. Mais il y a un ami qu'il a toujours gardé dans sa vie. Là, il est rendu à Hollywood. Il habite dans le coin de Los Angeles. Et il n'a jamais perdu son ami, qui est Sam Kellerman, le frère de l'analyste de boxe Max Kellerman. Vous voyez, là, Sam, c'est un jeune journaliste prometteur. Et il est tranquille chez eux, Sam, mais c'est un ami de James Le Marteau Butler. Je vous rappelle Le Marteau, vous allez comprendre plus tard dans l'histoire pourquoi. James Butler, il va sonner chez Sam, puis il lui demande, « Regarde, est-ce que je peux dormir ici quelques jours, le temps de me retourner sur un 10 cents? Ma femme ne veut plus me voir, tu sais. » Fait que Sam, il dit, regarde, tu sais, il n'y a pas de problème, tu peux venir ici, tu sais. Et quelques jours après, Sam, il prend son courage à deux mains, puis il avertit James Butler qu'il faut qu'il s'en aille. Il dit, je t'ai offert le gîte quelques jours. Je ne t'ai pas offert le gîte éternellement. Va-t'en. Tu sais. Et s'ensuit une chicane et James, le marteau new-yorkais Hammer, c'est quand même spécial parce que c'est son surnom, va saisir un marteau et tuer de plus de 30 coups de marteau son ami depuis 10 ans, Sam Kellerman. Il va partir à la course, il va voler le char de Kellerman, puis il va être en cavale pendant 3 jours avant de se présenter avec un avocat pour dire « Regardez, je suis bipolaire et je suis des traitements. » Il va se présenter au poste de police où il va se faire arrêter. Là, il est arrêté quelques jours après. Il plaide non coupable de vol de voiture et meurtre sous prétexte qu'il est bipolaire. On fait une caution de 1,25 million que personne ne paye, fait qu'il reste en prison. Et c'est assez simple, il y a un seul suspect, puis c'est lui, tu sais, parce qu'il continue à dire qu'il est non coupable. Tu sais, donc, il a tué Kellerman avec un marteau, tu sais, ça va quand même bien. Après ça, le juge, il y a un jury, OK, l'année d'après, qui dit, ben là, c'est assez évident que c'est lui, tu sais, on va le laisser en prison. Fait qu'il le laisse en prison. L'année d'après, le procès a lieu. Tu sais. Fait que là, c'est donc bien long, les délais aux États-Unis. Fait que là, l'année d'après, en 2006, le procès a lieu et finalement, il va plaider coupable de meurtre à main nue avec un marteau, puis de vol de char sur Kellerman. Et il est sentencé, tenez-vous bien, pour 29 ans, 4 mois par le juge Michael Pastor. Toutefois, on lui retire les 614 jours qu'il a passé en prison en attendant son procès. Donc, il y en a pour 27 ans, on est en 2006. On risque de le voir sortir, tu sais. Et le seul motif pour le crime, c'est qu'il dit il a voulu que je m'en aille. Tu sais, c'est juste ça. Dans les notes c'est-tu drôle? C'est pas si c'est drôle. C'est le frère à Max Kellerman, en tout cas. Qu'est-ce que j'avais pris en note? Ah oui, j'ai pris en note, ça c'est drôle. J'ai lu le jugement, puis Butler avait un peu d'argent dans son compte parce qu'il avait eu des bourses. Il a fallu qu'il verse 17 853 à la famille pour les frais de funérailles. Il a fallu qu'il verse 10 000 à l'État pour un fonds pour les meurtriers, pour les familles. Il a fallu qu'il verse 11 882 $ au propriétaire de l'appartement pour que le ménage qui a été fait, parce que c'était tout à l'envers. Fait que ça m'a quand même fait sourire que dans le jugement, tu sais, on est tous les montants puis les affaires. Donc, c'était l'histoire. Vous pouvez aller voir, ça traîne sur Internet quand le combat entre James Butler puis Richard Grant, c'est vraiment drôle d'entendre Atlas, arrêtez-les! Puis, tu sais, Butler, il a des culottes écrit 11 septembre. C'est le New Yorkais à New York qui agit comme le héros local dans un événement bénéfice où il y a juste des pompiers, des soldats, puis des policiers dans la foule. Puis il commet un crime épouvantable de traverser le ring pour assommer son adversaire. Puis ensuite. Il va tuer son meilleur ami, tu sais, Sam Kellerman, qui... D'ailleurs, Sam Kellerman, il ressemblait quand même pas mal à Max, là. Je sais pas si c'était des frères, c'est pas des jumeaux, là, mais admettons qu'ils ont à peu près la même face, tu sais. Sam et Max Kellerman, les parents, ils sont pas trop cassés la tête avec les petits noms de trois lettres. En tout cas, Max, lui, il en parle pas souvent, mais il dit qu'il est hanté par. Il est hanté par ce qui est arrivé, puis qu'il vit avec ça maintenant. Sam Kellerman avait 30 ans la journée de sa mort. Puis ça aussi, j'ai trouvé, tu sais, ça c'est sur Internet, parce que quand je fouille, tu sais, c'est une chronique de 10 minutes comme ça, ça a pu me prendre quasiment 30 heures à écrire. Puis quand tu fouilles, j'ai retrouvé la pierre tombale, j'ai retrouvé les papiers, j'ai retrouvé des photos, j'ai retrouvé ce que je vous ai dit tantôt, là. J'ai retrouvé toutes les fleurs qui ont été envoyées. C'est quand tu fouilles, là, c'est drôle, j'ai vraiment trouvé beaucoup de choses. Donc, merci à tous. C'était ta nouvelle chronique, Claude Poirier, True Crime de Box, mais sur ton podcast préféré, Laurence Écoute Parler. Je pense que c'est un beau cadeau pour vous autres, les fans. Les gens qui prennent congé de podcast pendant l'été, je vais vous le dire, là, je les méprise. Moi, il y a tout le temps des affaires à parler, il y a tout le temps de l'actualité. La boxe, c'est pas le hockey ou qu'il y a des pauses. Même le hockey, je veux voir que Jean-Charles, il est en arrêt pendant que le Canadien ne repêche pas Michkov. Ce serait ça, les moments les plus intéressants à parler de l'année, tu sais, puis on n'est pas là, on prend des pauses, autant 16-18 semaines par année de congé, hey, une fois de temps en temps, un petit après-midi off, t'es correct, va travailler, tu parles d'un micro, je fais ça, moi, pour vous divertir, y a pas de problème, pensez-vous, je vais commencer à prendre des pauses pour l'été, hey, je vais revenir début septembre, Ben oui, puis Crawford contre Spence, il va attendre que je revienne de vacances, lui. Non, les gens. Ma job, c'est de parler, je parle. Alors, les résultats de la semaine, je vais vous faire une chronique où je vais tout mélanger, résultats, nouvelles. On met ça d'un pot. J'ai hâte de repartir l'air climatisé. Jaron Ennis a détruit Roman Villa dans un KO au 10e round. Il nous a prouvé qu'il était à un autre niveau. Il a fait les petites affaires tranquilles. Sont bons, Virgil Ortiz, Jarron Ennis, toute la nouvelle vague. C'est intéressant de suivre, voir qui va affronter qui, mais il est prêt. Jarron, la vie est belle. KO au 10e round. Le public du New Jersey était assez heureux. Roman, il y avait pas mal de sang en face. Villa vraiment parti lentement, puis il a pas lancé beaucoup de coups de poing. Dès le deuxième, il saignait. Puis Boots avançait tranquillement, pas vite. Boots, vraiment, c'est un gars qui semble méthodique, qui semble bien faire les petites choses. Et il va attendre son tour, lui, après le combat entre Spence et Crawford. Ça devrait lui revenir, t'sais, les affaires qui vont suivre. Qu'est-ce qu'on avait d'autre hier? Errol Spence. Je sais pas pourquoi, mais Spence... on lui a demandé comment Ryan Garcia allait, puis il a dit que tous les problèmes de Ryan Garcia avaient été réglés par le coach Derek James. Donc, on va suivre ça. Spence et Ryan Garcia qui sont maintenant dans le même gymnase. Régis Progrès, on lui a annoncé qu'il devait affronter Sandor Martin. La seule autre option qu'il y a, ce serait d'unifier contre Devin Haney, selon le bon vieux Eddie Hearn. Rolly Romero cherche un combat contre Ryan Garcia. Rolly Romero, c'est un gars qui ne sait pas boxer en défensive, mais qui est génial à l'attaque. Contre Garcia, qui a les mains vives, ça pourrait donner tout un spectacle. La WBA a annoncé que... Et Mantas Stanionis devenait le mandatoire pour le gagnant de Spence et Crawford. Si j'ai bien compris, c'est que Virgil Ortiz s'est retiré pour une troisième fois du combat contre Stanionis pour des raisons de santé. Donc la WBA a dit, ben regardez bien là, ça va être notre homme finalement. C'est trop compliqué. Mais on s'entend que voilà un combat qui n'y arrivera pas. Là. Stanionis n'aura pas sa chance. Puis la rumeur, c'est que Stanionis, lui, pourra affronter Keith Thurman ou un gars comme Josh Taylor qui veut revenir après une défaite. À suivre, Diego Pacheco, qui est trop fort pour la Ligue, a assommé Over... c'est son nom, ça? Over Gallegos, mais... Incroyable. Manuel Gallegos. Non. Je suis en train de penser que le verbe, c'est le prénom. Le soleil m'a frappé sa tête. Il a battu Manuel Gallegos. Et ce qui avait beaucoup de la pression qu'on mettait, c'est parce que là, Pacheco, il détruit tout le monde. Okay? Puis c'est comme un prospect au même niveau que, tu sais, exemple, Christian Billy. Clairement, Pacheco est passé devant Bazinian. On sait bien, Laurent, t'es pro Eye of the Tiger. Ben oui, je viens de dire que Pacheco est passé devant Bazinian, hein? J'aurais pas mon chèque, comme dirait le monde à la maison. Si je vous haïs, mais je suis payé par absolument personne, à part les gens de fightnight.co qui s'occupent de régler mon loyer en échange de publicité. Donc, même quelqu'un veut payer mon loyer. Pensez pas que je le laisserai pas faire, là, mais c'est pas Eye of the Tiger qui paye mon loyer, c'est fightnight.co. Donc, Pacheco, les gens ont beaucoup commencé à dire qu'il devrait affronter Carlos Gongora parce que, tu sais, Gongora cherche d'autres combats, fait la limite avec Mbili, donc on veut tester Pacheco en mettant un comparable avec Gongora, avec Mbili. Moi, je trouve ça génial. Là. C'est ce que je souhaite, moi aussi. C'est comme ça que la boxe devrait être pratiqué. Errol Spence dit que Jermell Charlo va être énorme contre Canelo Alvarez, qu'il se promène à 183 livres dans la vie de tous les jours. Ryan Garcia, en entrevue, lui, a lancé un défi à Régis Progrès. Il veut le titre de la WBC. Eddie Hearn a prédit que la revanche entre Dillian White et Anthony Joshua pourrait atteindre 800 000 payants, que ça va être très populaire. Jared Anderson, ça m'a surpris, ça, qui a gagné le 1er juillet dernier contre Prince Charles Martin dans le même gala où Arslanbek Makhmoudov a gagné au deuxième. je pourrais vous parler d'Arslan Beck, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Il a passé sur le corps. Faut qu'on trouve un meilleur adversaire. Mais là, ça fait 25 fois que je dis faut qu'on trouve un meilleur adversaire. Son meilleur adversaire, c'était Takam. Au lieu de monter, ils ont descendu après. Pas de ma faute à moi, là. Fallait en trouver un meilleur, mais les meilleurs disent non, ça a l'air. C'est pas un problème d'argent, les gens veulent pas l'affronter. Je sais pas comment vous allez dénouer la situation. Moi, je suis animateur, vous êtes dénoueur. Fait que dénouer, trouver un adversaire à Makhmoudov, je ne peux pas m'en mêler. Mais je sais pas quoi vous dire. Mais là, Anderson voudrait tout de suite revenir. Est-ce que ce sera contre Zane Kozubutski qui réglerait ses problèmes? Ses problèmes, beaucoup de gens disent que oui, ce serait lui, genre, qui réglerait ses problèmes de visa. Kozubutski qui frappe fort, par exemple, et les gens disent « Hey, Kozubutski, il y aurait des chances parce que... tu sais, Anderson, il recule en ligne droite, ce serait un de ses seuls défauts, puis... Kozubutski frappe fort. Il y en a beaucoup qui disent que ce serait une mauvaise idée pour depuis qu'on a vu Anderson faire 10 rondes avec Martin. La plupart des gens disent que ce serait une mauvaise idée d'affronter Kozubutski. Et je crois aussi que ce serait une mauvaise idée. Moi, je pense qu'Arslan Beck passe. Ça fait 35 jours que je n'ai pas gagé. Puis j'ai promis à Maison Jean Lapointe que je ne gagerai plus jamais. Mais je pense que si Makhmoudov affronte Jared Anderson, je retombe dans le vice. Puis je gage ma paye sur Arslan Beck Makhmoudov. Qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous? Devin Haney qui est sorti publiquement pour dire « Hey, j'ai jamais dit que je ne donnerais pas de revanche à Lomachenko. Là. Tout pourrait arriver. » Parce qu'il dit qu'il fait maintenant partie des clubs des mal cités. Puis il y a des gens qui disent qu'il aurait dit. Il y a des gens qui disent qu'il aurait dit. Je ne suis pas sûr que c'est la meilleure façon de tourner ma phrase, là, mais il y en a qui disent qu'il aurait dit qu'il ne veut pas affronter Lomachenko. C'est faux! Il est prêt. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai pris 8 pages de notes. J'essaie de résumer. Oscar De La Hoya dit que Germel Charlot est très dangereux pour Canelo. Et c'est à peu près ce qu'on a. Sur la scène, je sais que ça n'a pas de bon sens. Je vais vous parler des résultats. Puis on va tout faire d'un coup sec. Là. Il fait chaud. Est-ce que j'ai hâte de repartir là, climatisé? Podcast durera 38 minutes. Puis si vous n'êtes pas satisfait, appelez-moi sur Messenger. Je vous ferai un bonus de 4 minutes à chaque personne qui appelle. Ça ne me dérange pas. Dérange pas, j'ai rien à faire. Je veux juste partir là, climatisé. Je demande pas à la lune. Si j'ai chaud, je fais de l'insolation. J'ai brûlé dans le front. Là. J'ai l'air d'un beau tweet. Je vais avoir des cloches d'eau dans la face. Hier, Luis Neri se battait contre Froland Saludor, mais j'ai pas trouvé résultat. C'est ça le problème avec le Mexique. Il n'envoie jamais résultat sur BoxRec. Puis là, j'ai l'air d'un beau tarlet le lendemain matin. Qu'est-ce qu'on avait hier? On a Marlène Esparza qui a battu Chucky au juge, puis ça a fait une histoire parce que Chucky méritait un meilleur sort. Je vais en parler avec Marie-Ève Albert tantôt. Jaron Ennis a battu Roman Villa. Edwin de los Santos a battu Joseph Adorno. Et Steven Torres a battu James Evans. C'était la finale de ce qu'il nous donnait gratuitement. Marlène Esparza, elle a battu Gabriela Céleste Alaniz, surnommée Chucky. Ce serait beaucoup trop large au juge. Je pense que si t'en fais trop dans la pesée officielle ou les conférences, on dirait que les juges s'en rappellent et ils ne veulent plus te donner des rondes. On dirait que c'est ça qui est arrivé. Je vais poser tantôt la question, mais j'étais un peu sous le choc là, de ce qui est arrivé dans ce combat-là hier. Je trouvais que la pauvre dame méritait clairement un meilleur résultat, genre. Puis là, ça gagne pas un round quasiment avec les juges. Steve Claguette, mesdames et messieurs, notre préféré Claguette qui fait flèche de tout bois depuis qu'il est avec Mike Moffa. 6 KO en 6 combats avec Moffa. On dirait qu'il y a eu un avant-après la leçon qu'il a reçue contre Mathieu Germain. Claguette, il est décollé. C'est depuis que Germain l'a battu, mais il est décollé, Steve Claguette. Ramasser Mike Moffa avec lui. 6 victoires en 6 combats. le cardio est dans le plafond. Tu peux pas arrêter d'avancer. On dirait d'empêcher Steve Claggett d'avancer. Mais c'est en train de devenir un animal. N'ayons pas peur des mots. Et là, mais là, j'essaie d'y aller par hasard. Tu m'ouvrais mon box-rec parce que là, m'a l'air d'un beau tarlet. J'ai essayé de vous nommer l'adversaire de Claggett par hasard. Puis là, c'est là que j'ai manqué de mémoire. Tu sais, je voulais que je vous dise. Fait que j'ouvrais ça avec vous autres. Il affronte un adversaire, si ma mémoire est bonne, de 24-1. Un gars qui est arrêté une seule fois. Puis j'ai eu même un débat avec un ami d'une autre page qui me dit « Il est pas ben bon, ce gars-là! » Puis moi, je dis « Ben voyons, il me semble que c'est pas pire. Je... Peut-être moi qui est fou. » Claggett va affronter... j'ai encore perdu ma feuille. Il va affronter Carlos Sanchez Valadez, un gars de 24-1 qui a perdu un seul combat. Donc, je trouvais que c'était pas pire, moi. Valadez, je suis allé voir des vidéos, c'est un gars qui était sur l'équipe nationale mexicaine, puis qui a perdu contre Josh Kelly. Il est très agressif, il est très fonceur. On dirait un Steve Claggett mexicain là, qui lance beaucoup de coups puis tout. C'est sûr qu'il a subi une défaite, mais maintenant Claggett en a subi 7. Là, si on commence à surveiller ça, on s'en sortira jamais. Fait que j'ai l'impression qu'on va avoir un bon combat à cause des styles des deux personnes. Là, je peux pas croire que si Claggett gagne pas, il s'en va pas dans les classements. Là. Alex Gaumont, lui, va affronter un adversaire invaincu, Ulysse Tovar-Rivera, mais ils ont vraiment trouvé le gars invaincu que l'affiche la plus louche. Là. C'est que Gaumont va te le passer entre deux câbles. Vanessa Lopez-Johannes, elle, va affronter Timea Nagy, une fille de 2-1. Une Hongroise, c'est difficile de trouver des filles dans ces divisions de poids-là. Fait qu'on va apprendre, elle, puis Vanessa, elle aussi, va la passer entre deux câbles. On a Harley David O'Reilly qui avait dit à tout le monde qu'il prenait sa retraite. Finalement, il revient. Il dit, oh, vous êtes chez nous, mais revenez. On va avoir Christopher Guerrero, Avery Martin Duval, Thomas Chabot, Luis Santana et John Orobio sur la même carte. Si vous voulez des billets, ben, googlez Steve Claggett, billets, Gatineau, vous allez les trouver. Donc, c'est ce qu'on avait sur la scène québécoise. Merci d'avoir été là. C'est vrai que j'ai oublié de vous parler des combats de la semaine prochaine. C'est moi qui dis que je suis mêlé. Si j'avais mes feuilles, puis là, finalement, j'ai changé de pièce parce qu'il faisait trop chaud. Je comprends le monde de prendre 2 mois de congé. Sinon, il fait chaud l'été. Bon, j'ai retrouvé ma feuille. On a le 15 juillet prochain. On a Nonito Donner contre Alexandro Santiago. Frank Martin contre Artem Aroutiouniagnan et Elvis Rodriguez contre Victor Postol qui est encore là. Grosse soirée pour les petits pois. Ça, c'est sur Showtime. Sur DAZN, on a Alicia Baumgartner qui défend son titre finalement contre Christina Linardatou. On a Richardson Hitchin contre Montana Love dans une bataille de prospects. On a Andy Cruz contre Juan Carlos Burgos. Suleiman Sissoko contre Janelson Bocachica. Encore DAZN qui nous arrive avec 4 combats de 10 rondes. Il y en a même un 5e entre Castro et Fuan Zalida. De plus en plus, c'est leur style. 5 combats de 10 rondes, que de la qualité, puis vous avez votre box. Et finalement, plus tard dans le mois, on va avoir Cambozos contre Maxi Hughes. Mais ça, on y reviendra en temps et lieu. Il y a un gala... C'est facile, là, en juillet, les deux combats que tu n'as pas le choix de regarder, c'est Stephen Fulton contre Naoya Inoue, on est le 25 juillet, et le 29 entre Spence et Crawford. Fait que le mois de juillet, c'est énorme. Le monde sont en vacances, j'en reviens pas encore, j'en reparle. Lâchez vos vacances, parlez de boxe. Merci, bonsoir, je vous aime tous, et je vais tout de suite aller vous écrire une autre chronique, Claude Poirier.